que nous avons chanté hier à la réunion de prière, c'est les strophes 1 et 3 du 237. Oui, sur Dieu seul repose-toi, mon âme. Jésus est là, toujours à tes côtés. Strophe 3, repose-toi, jamais Dieu ne t'oublie. Et l'heure est proche où Jésus va venir. Dans le cantique 49, nous avons chanté « C'est le regard de ta face qui nous rend juste heureux. Notre âme en paix se repose sur toi. Bien-aimé Sauveur, l'auteur, la source, la cause de notre éternel bonheur. Se reposer sur Dieu. Pourrions lire dans le psaume 62. Au chef de musique sur Jésus-Christ, comme de David. Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne serai pas beaucoup ébranlé. Verset 5. Mais toi, mon âme, repose-toi péniblement sur ton Dieu, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge, c'est là. Les fils des gens du commun ne sont que vanité, les fils des grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils montent ensemble plus légers que la vanité. N'ayez pas confiance dans l'oppression et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Le sujet du psaume 162, c'est le repos de l'âme. Le repos d'une âme qui s'attend à Dieu. C'est un psaume qui a été écrit par David. C'est un psaume qui n'est pas en rapport immédiat avec une circonstance qui a traversé David, un danger, une situation particulièrement dangereuse. Mais on a dit que le psaume 62 est le fruit des expériences de David rejeté. Et quel est le message que Dieu nous laisse dans ce psaume 62, c'est que nous ne pouvons trouver le repos qu'en Dieu. Le repos de l'âme, du fidèle, de l'homme pieux qui s'attend à Dieu. dans l'Ancien Testament, les mots, souvent, ont des sens pas exactement le sens que nous trouvons littéralement en français. Et en hébreu, le mot reposer signifie faire une pause pour recevoir plus d'instructions de la part de Dieu. C'est-à-dire, nous faisons une pause, nous sommes devant une difficulté, un choix, nous n'y voyons pas clair, et nous hésitons à prendre une direction ou une autre, et ce que nous dit David dans ce psaume, c'est « Mon âme, repose-toi sur Dieu ». C'est-à-dire, attends ses instructions. Fais une pause. Ne t'engage pas rapidement. Ne prends pas une décision rapide, instinctivement. Se reposer, donc, signifie exactement, en hébreu, de faire une pause pour recevoir les instructions de la part de Dieu. Et dans ce psaume, nous voyons que David, comme fruit de toutes ses expériences passées, il peut dire sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. Verset premier. Verset second, lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Au verset 6, lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Nous trouvons aussi cette expression dans le verset 2, je ne serai pas beaucoup ébranlé. Nous pouvons traverser les circonstances, les difficultés particulièrement difficiles, que ce soit en assemblée, dans notre vie personnelle ou dans notre vie de famille, et pourront traverser des tempêtes et être ébranlés. Et nous voyons dans le verset 2 que David dit « Je ne serai pas beaucoup ébranlé ». Et au verset 6, il redit « Je ne serai pas ébranlé ». Nous voyons que l'âme de David a fait un progrès dans la connaissance de son Dieu. S'il pouvait dire au départ « Je ne serai pas beaucoup ébranlé », il peut dire maintenant, à ce verset 6, je ne serai pas ébranlé. Est-ce que nos âmes trouvent le repos en Dieu et en Dieu seul? Quand nous rencontrons une difficulté, pouvons sans doute prier, être exercés, n'y voyons pas clair, pouvons être découragés, stressés, et le Seigneur peut être un moment silencieux, et c'est un temps qui peut être un temps d'attente, difficile, mais le Seigneur connaît le moment approprié pour intervenir. Et l'expérience de David, c'était que maintenant, il pouvait s'attendre paisiblement à Dieu, se reposer sur l'amour de son Dieu et sur sa sagesse, attendant cette intervention divine pour être délivré. Et quelle confiance nous trouvons dans ces expressions « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. » Il faut avoir beaucoup de force de caractère dans certaines situations. Si nous nous souvenons de la nacelle avec les disciples et la difficulté et cette tempête terrible qui tombe sur ce lac. Et nous sommes souvent, nous avons le même caractère souvent que ses disciples, et nous prions au Seigneur pour qu'il nous délivre. Et nous avons ce sentiment quand tout est contraire. Mais David, qui a traversé les circonstances contraires, rejeté, poursuivi par sa vie, en danger pour sa vie. Eh bien, il peut dire dans ce psaume, « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement, et de lui vient mon salut. » Alors c'est sûr que quand nous rencontrons des difficultés, c'est beaucoup plus facile de chercher notre solution propre, notre propre solution. Souvent, on manifeste de l'impatience, de l'anxiété, du découragement. Nous raisonnons. Nous posons des questions et nous allons même quelquefois jusqu'à nous plaindre de toutes ces circonstances. Mais l'expérience de David, c'est sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. Et de lui vient mon salut. Le salut ici, c'est le secours. Et Dieu intervient toujours au moment approprié. Juste une expression dans l'Épître aux Hébreux. Dans le chapitre 4, au verset 16, il veut dire pour son mouton avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Le moment opportun de Dieu, c'est pile quand nous avons besoin. C'est pas une heure avant ou une heure après. Dieu sait parfaitement quels sont nos besoins. Quand nous nous adressons à lui avec confiance, au trône de la grâce, eh bien, Dieu va nous secourir au moment opportun. C'est-à-dire exactement comme il nous faut, au moment approprié. De lui vient mon salut. Dans ce psaume, on a dit que David avait appris trois leçons. Les trois leçons du psaume 62, c'est premièrement la dépendance, La dépendance, c'est d'attendre l'intervention divine quand nous prions dans notre difficulté, dans nos choix, quand nous passons par une tempête. Eh bien, la première chose à apprendre, c'est savoir attendre, de ne pas nous agiter, de ne pas chercher d'autres solutions, c'est attendre. Et attendre, c'est la dépendance envers Dieu. Apprendre la dépendance envers Dieu. C'est-à-dire, c'est ne rien faire sans Dieu. C'est-à-dire, c'est ne rien faire venant de notre propre volonté. Nous attendre simplement à Dieu avec confiance, dans la dépendance. La deuxième leçon, après la dépendance, comme on vient de l'exprimer, c'est la confiance en Dieu. C'est la foi en notre Dieu. Compter sur lui absolument. Et attendre avec confiance, patiemment, le moment du Seigneur. Et dans ces exercices de foi, au verset 8, nous disons « Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. » La troisième leçon qu'a tirée David, c'est la constance, c'est-à-dire compter sur Dieu absolument en tout temps. Chacun a une course chrétienne plus ou moins longue, et ce sont les expériences de la vie qui nous apprennent ces leçons avec Dieu, c'est-à-dire comprendre d'abord que nous avons besoin de dépendance. Dans nos choix, savoir attendre la délivrance, savoir attendre le moment approprié pour Dieu, qui nous montrera clairement ce qu'il attend, ce qu'il veut pour nous. La deuxième leçon, après la dépendance, c'est la confiance. Est-ce que, quand nous traversons notre vie journalière, est-ce que nous avons cette confiance absolue en Dieu? Et pour la troisième, la constance, nous voulons reconnaître tous que nous avons des hauts et des bas, et que cette constance, plus on avance, plus nous nous rendons compte que dans notre vie, il faut tout remettre à notre Dieu, absolument tout, nos inquiétudes, nos découragements, et nous avons besoin de nous reposer entièrement sur Dieu. Dans les derniers versets de ce psaume, il nous est dit, au verset 10 en particulier, n'ayez pas confiance dans l'oppression, dans les biens qui augmentent, et de verset 10, de ne pas y mettre son cœur. Ce psaume souligne les dangers de la prospérité. Dans nos pays occidentaux, nous connaissons ce qu'est la prospérité, la richesse, et nous pouvons courir après les richesses, hélas. Et aimer, c'est de ne plus compter sur Dieu, mais de compter uniquement sur les richesses. Dans le psaume 69, il y a cette expression, verset 22, que leur table soit un piège devant eux, et que ce qui tend à la prospérité leur soit invité. C'est un psaume qui nous montre que dans la vie chrétienne, il y a toujours des exercices, il y a toujours des épreuves, mais que Dieu est fidèle et que nous devons absolument compter sur lui. Et à la suite de David, réaliser que sur Dieu seul, nos âmes peuvent se reposer paisiblement. Et que lui seul est ce rocher et notre salut. Dieu est notre refuge et notre rocher. Le refuge, c'est une protection, on a dit, autour de nous. Et le rocher, c'est un solide fondement sous nos pieds. Nous avons besoin de réaliser que Dieu est à la fois une protection autour de nous, et à la fois, il est un solide fondement sur lequel nous pouvons poser nos pieds.
Et si tu louais ce passage où le Seigneur, Dieu disciple, si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. C'est juste en arrière-plan que je rappelle cette expression du Seigneur. Ce qu'on a vu dans ce psaume, c'est quelque chose de très encourageant. Mais en même temps, on voit bien comment, entre le verset 2, je ne serai pas beaucoup ébranlé, et le verset 5, le verset 6, je ne serai pas ébranlé. Il y a un mélange d'apprentissage et de se ressouvenir quelque chose qu'on sait et de se ressouvenir pratiquement. Non pas juste comme quelque chose qu'on sait, mais comme quelque chose qu'on vit. Et les versets 3 et 4, qu'on n'a pas considéré, je ne vais pas m'y arrêter, ils évoquent toutes ces contradictions auxquelles on est confronté, ces choses qui, dans la marche, sont susceptibles de nous ébranler, qui sont susceptibles d'introduire un doute ou une distance par rapport à ces assurances qu'on sait. Alors je vais juste m'arrêter rapidement sur d'abord sur le psaume 73. Je ne vais pas y arrêter beaucoup parce qu'il mériterait à lui seul déjà de beaucoup de choses à dire. Verset 2 ou verset 1er. Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur. Et pour moi, il s'en est fallu de paix, de peu que mes pieds ne m'aient manqué, de rien que mes pieds, que mon pas, que mes pas n'aient glissé. Car j'ai emporté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Voilà l'introduction de ce psaume. Comment Asaph fait le bilan d'une expérience qu'il a faite, qui a été lourde pour lui, mais où il a appris une leçon tellement précieuse. Voilà, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué, que mes pas m'aient glissé. Pourquoi ? Parce qu'il avait regardé autour de lui la prospérité des gens. Et du coup, tout ce qui était ses repères s'était perdu. Et les versets qui suivent détaillent un peu ce à quoi il a considéré et comment dans son cœur est né de l'envie, la jalousie, la convoitise, toutes sortes de choses. Et pour en arriver au verset 15, si j'avais dit je parlerais ainsi, d'après la note, si je parlerais comme eux, voici, j'aurais été infidèle à la génération de tes fils. Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux. Je m'arrête juste. Il y a quelque chose comme une sonnette d'alarme qui me rend attentif à question. Si tu parles comme eux, à qui tu te rattaches? Ceux que tu viens de décrire, ceux qui sont décrits dans les versets précédents, sont au fond, pour reprendre l'image du Nouveau Testament, les fils du méchant. Toi, tu es en fond de Dieu. Tu parles comme eux, c'est-à-dire que tu t'identifies à ceux qui ne sont pas en fond de Dieu. Et c'est comme un sursaut pour Adam. Et un sursaut difficile. Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux. Ce retour sur lui-même a été quelque chose de laborieux, de douloureux, de pénible, jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu. J'ai compris enfin. Jusqu'à ce qu'il retourne à la mesure de Dieu sur toutes choses. Et alors, verset 21, quand mon cœur s'aigrissait, que je me tourmentais dans mes reins, j'étais alors stupide, je n'avais pas de connaissance, j'étais avec toi comme une brute. Mais je suis toujours avec toi, tu m'as tenu par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, et après la gloire, tu me recevras. Qui ai-je dans les cieux? Je n'ai de plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur sont consumés. Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Jusqu'à ce que je puisse entrer dans les sanctuaires de Dieu. C'est ce retour sur celui, c'est au fond un peu ce retour, un retour à cette affirmation de David. Sur Dieu seul, mon âme se repose. Si je retourne sur ce rocher, reprendre appui sur ce rocher et m'y appuyer fermement, mon regard s'éclaircit et je vois de nouveau toutes choses avec la lumière de Dieu. Et alors il y a ces versets 21, 22 où il va faire le constat sur ce qu'a été son chemin. J'étais stupide, je n'avais pas de connaissance, j'étais avec toi comme une brute. Et puis à ce mais. Mais je suis toujours avec toi. Tu m'as tenu par la main droite. Tu m'as tenu par la main droite quand moi j'étais en train de m'élever à regarder là où il n'y avait aucun profit. Au contraire. Et verset suivant, tu me conduiras par ton conseil. Je peux m'appuyer sur toi pour la suite, pour chaque pas qui vient. Qui ai-je aux cieux? Un tout. Je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. Retour en arrière, tout ce qui a été joie, paix, repos dans le Seigneur, pas en regardant ceux qu'il appelait, qui dont il parlait au début, les arrogants. Retour et plein retour à cette pleine confiance. Cette pleine confiance en Dieu qui est mon Dieu. Alors l'autre psaume que je voudrais voir en parallèle aussi, c'est un autre aspect, le psaume 42. On a plutôt une opposition directe. Les fils de Corée, un contexte qui est un petit peu probablement similaire dans sa nature à celle de David dans les deux versets du psaume 62. Et où tu as une âme qui est, deux premiers versets, ça se situe tout de suite, comme le cerf brame après les courants d'eau. Ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Il y a une aspiration à quelque chose qui échappe, à quelque chose qui n'est pas là. Et ce quelque chose est évoqué au verset 4. On peut lire verset 3 déjà. Mes larmes ont été mon pain jour et nuit quand on me disait tout le jour, où est ton Dieu? Je me souvenais de ces choses que je répandais mon âme au-dedans de moi. Comment j'allais avec la foule et je m'avançais en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange, jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fait. Je ne connais pas les circonstances de l'écriture de ce psaume. Quelque part, il rappelle un petit peu ce psaume sans plus numéro, assis au bord du fleuve à Babylone, les transportés qui sont loin de Jérusalem et qui languissent après Jérusalem, le temple. On a quelque chose de similaire là, ce souvenir de comment j'allais avec la foule jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fait. Et tout ça, on ne sait pas les circonstances et n'est plus. Et alors, il y a cette soif. Et quand il y a ce dialogue, versets 5-6, le dialogue de l'âme avec elle-même, devant Dieu. Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, sa face et le salut. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, et des Hermons et de la montagne de Mycénas. Pourquoi es-tu abattu? Mais je suis abattu. Oui, je suis abattu. Mais pourquoi es-tu abattu? Le croyant qui se raisonne, si on peut dire comme ça lui-même, qui se reprend lui-même, qui constate qu'il est abattu et qui s'interpelle lui-même, mais pourquoi tu n'as pas de raison d'être abattu? Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. On est peut-être comme dans une étape avant le psaume 62. Le psaume 62 qui est l'aboutissement, si on peut dire, de cette situation-là. Et cette interrogation revient. On l'a au verset 11 de nouveau. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est le salut de ma face et mon Dieu. Verset 5, c'était sa face et le salut. Il est le salut de ma face et mon Dieu. Le psaume 43, qui forme un tout avec le psaume 42, on le retrouve encore en conclusion. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est le salut de ma face et mon Dieu. C'est cette étape par laquelle on passe où le cœur est troublé. On sait où est le secours. On sait où est la réponse. Et il y a comme quelque chose qui tourne à vide pour faire ce pas et s'appuyer, se reposer sur l'Europe, sur le Seigneur. Et c'est très encourageant que ce soit le psaume 73 ou le psaume 42, on voit dans des circonstances très différentes les uns des autres, ces psalmistes, comme nous-mêmes, nous vivons les mêmes expériences. Et nous avons là un encouragement, des réponses sur ce temps où Dieu va répondre, sur ce temps, ce chemin qu'il faut faire pour retrouver, regoûter de nouveau pleinement ce repos, cette communion avec Dieu et réellement réaliser cet appui sur lui. Alors en rapport avec le repos, justement, il y a un autre psaume aussi où on a des encouragements, psaume 130, et qui est en regard d'un autre ennemi, si on peut dire, d'un autre caillou dans le chemin. Donc je vais le lire en entier. Je t'ai invoqué des dieux profonds, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix et que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Jah, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon attente en sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles l'attendent le matin, que les sentinelles l'attendent le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car auprès de l'Éternel il y a bonté, et il y a rédemption en abondance auprès de lui, et lui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Le fil conducteur qu'on a là, c'est cette attente pour trouver, goûter à ce repos, mais avec un regard, verset 3, si tu prends garde aux iniquités. Verset 8, lui rachètera Israël de toutes ses iniquités, le péché de notre vie. Les adversaires extérieurs, notre regard sur ce qui nous entoure, le péché de notre vie. Et le chemin est toujours le même, et là le croyant, en même temps, il a peur, il demande à Dieu, mais en même temps il sait, il y a pardon auprès de toi. Et il termine, afin que tu sois craint, il y a pardon, et ce pardon, je le goûte comme une délivrance, et en même temps, il me rend attentif à veiller. À être vivant. Alors on a cette attente. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu. J'ai eu mon attente dans sa parole. L'image de la sentinelle qui attend le matin, qui doit veiller toute la nuit, jusqu'au matin. Et puis cet encouragement, Israël, attends-toi à l'Éternel. Nous pouvons nous encourager l'un l'autre à nous attendre à l'Éternel. Et il y a rédemption. Il y a pardon, verset 4, il y a rédemption, verset 7. Cette rédemption qui est réexprimée, verset 8, qu'il rachètera. Le repos qu'on a, cet appui qu'on peut librement, en toute confiance, s'appuyer sur Dieu parce qu'on sait que dans l'œuvre du Seigneur, il y a un plein pardon. Pardon, secours, délivrance, chemin de retour, un faisceau de chemins différents qui mènent au fond quelque part à cette affirmation de David, du psaume 62, sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. Psaume 62 est au fond là comme une espèce de convergence, de points de convergence, de toute une série d'expériences différentes qui ont toutes en commun une aspiration à ce repos, une faim, une soif de ce repos, un combat, une opposition, des faiblesses, des manquements, et puis une appropriation des promesses de Dieu et du secours qu'il y a en lui.
Pour